Les As de la copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les As de la copro, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC, des syndics de copropriété pour les syndics, mais aussi pour les copropriétaires, pour les prestataires, les fournisseurs. Et on va commencer par la première séquence, mille millième.
Les As de la copro, mille millième.
Alors, mille millième, c'est notre invité et aujourd'hui, je reçois Alain Mélier. Bonjour Alain.
Bonjour Gilles.
Alors Alain Mélier, vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs.
Oui.
Hein, donc c'est un syndicat.
Syndicat professionnel.
Syndicat professionnel. On va parler d'une proposition de loi en cours, controversée, portée par le député Brun. Parti socialiste. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Vous allez nous dire en quoi consiste cette proposition, ces propositions et pourquoi vous vous y opposez. Mais avant de démarrer, présentez-nous rapidement la Fédération des ascenseurs, nombre d'adhérents et mission.
Alors la Fédération des ascenseurs, c'est donc un syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble des acteurs de la profession. 180 adhérents à la fédération, à la fois des groupes présents sur l'ensemble du territoire et qui sont des groupes internationaux, à la fois des TPE, des PME, les acteurs de la maintenance, de l'installation, de la construction, de la modernisation, qui actent tous les jours pour faire en sorte que les ascenseurs soient installés et soient maintenus.
Ok, donc 180 adhérents. La fédération existe depuis combien de temps ?
La fédération, elle a 105 ans.
105 ans.
C'est une vieille dame.
Dis donc, presque ouais. Depuis la création des ascenseurs.
Un petit peu après les ascenseurs, mais en fait, le début de la métropolisation, Paris-Lyon-Marseille, c'est les années 1920.
D'accord.
Bah voilà, donc là, la profession s'est installée à ce moment-là en termes de syndicat professionnel.
Ok. Donc, 5 majors à peu près, et puis après des PME, des TPE, un peu comme dans l'administration de biens.
Dans
5 ou 6 majors.
Oui, comme dans toutes les industries aujourd'hui. Ouais. Quelques majors qui sont présents qui sont des groupes internationaux, qui sont aussi présents en France dans le cadre de leur exploitation industrielle, de leur activité industrielle, qui sont présents sur l'ensemble du territoire. C'est avec eux qu'arrivent les appareils neufs, principalement. Et puis après, les acteurs de la maintenance qui interviennent sur l'ensemble du parc. Et aujourd'hui, chaque acteur de maintenance, que ce soit un major, que ce soit une PME, une TPE, a un parc complètement diversifié. Les majors, à 50% de leur parc en maintenance, c'est des parcs hors marque.
D'accord. Alors, sur ce, on va parler de cette proposition de loi, PPL. Rappelez-moi comment elle s'appelle, le nom complet.
Alors le nom complet, c'est un nom qui ne nous fait pas plaisir, parce que le nom dit la proposition de loi contre les pannes non prises en charge. Or, 100% des pannes sont prises en charge. Il peut y avoir après des difficultés d'intervention, des difficultés de remise en service, mais 100% des pannes sont prises en charge. Donc c'est aussi poser le débat de façon biaisée dès le départ.
Biaisée, orientée, connotée.
Biaisé, orienté, connoté, tout à fait. On peut continuer sur le sujet. Il y a un préambule qui reprend nos chiffres, qui dit que 25% des appareils de plus de 40 ans, 40% des appareils ont plus de 25 ans, donc ce sont des appareils très vieux, sur lesquels l'ensemble de la profession, quel que soit l'acteur, s'attache à faire fonctionner tous les jours, mais l'ensemble des pannes sont prises en charge. Et dans ce préambule, on dit qu'il faut moderniser les appareils. Mais il n'y a aucun article ni amendement qui sont intervenus derrière qui vont aider à supporter cette modernisation. On dit simplement la longueur de la panne, pénalité, le stock, pénalité. Ce n'est qu'une série de pénalités, y compris pour les propriétaires d'ailleurs, en termes d'information des prestataires. C'est voilà, un chemin de pénalité qui ne sert strictement à rien si ce n'est à renchérir le coût
du contrat. Donc le constat, alors la NGC avait été auditionnée également, oui. Sur cette proposition de loi, donc on y avait participé en tant que syndic. Puisqu'on gère avec vous ces ascenseurs pour le compte de nos syndicats copropriétaires et des usagers, locataires, occupants, etc. Et il est vrai que le constat interpelle. On met en avant dans les motifs de la proposition de loi des pannes qui ressemblent, je dirais, un peu à des faits divers, qui dureraient 8 mois. Non pris en charge. Alors non pris en charge, en réalité, comme vous le dites, c'est pas que c'est pris en charge, c'est peut-être que la copropriété n'a pas les fonds pour payer la réparation, peut-être qu'il y a des problèmes de vandalisme. Moi, j'ai pas le constat, en tant que syndic depuis 20 ans, qu'il y a un problème avec les ascenseurs. Une panne dure maximum 15 jours quand il y a une pièce qu'on attend, mais on a l'impression qu'on fait une une loi pour quelques cas particuliers, mais une loi générale, alors comme d'habitude, c'est le même, vous faites le même constat ?
On fait exactement le même.
Il y a beaucoup de pannes qui durent 8 mois comme ça ?
Alors il y a très peu de pannes qui durent 8 mois, et il y a quelques arrêts d'ascenseur qui peuvent durer 8 mois. Le meilleur exemple que je vais avoir, il est tout frais, c'est sur TF1, il y a quelques jours, sur une panne d'ascenseur. C'est à Nice, inondation, l'appareil a des problèmes de vidange de fosse, d'expertise, d'assurance, 8 mois d'arrêt, le syndic a dit on va s'en occuper avec le prestataire, il va y avoir une remise en service proche. Donc 8 mois d'arrêt pour une cause extérieure à la profession, c'est une inondation. Et derrière, la conclusion, heureusement qu'il va y avoir une loi pour réduire les pannes.
Alors, dans le contenu, on impose aux ascensoristes un certain nombre d'obligations nouvelles, assorties de pénalités. Quelles sont ces nouvelles obligations ? On parle d'une obligation de stock, mais cette obligation existe déjà. Enfin, je l'ai déjà dans les contrats de mes ascensoristes. D'ailleurs, je l'ai montré aux députés. Hein. Je leur dis, regardez, ça existe déjà. Mais là, c'est des stocks pour des grosses pièces. C'est possible ? C'est faisable ?
C'est certainement améliorable, pourquoi pas. Là-dessus, on a aussi à prendre notre part des choses. Pourquoi pas, dans certains cas, à anticiper les stocks. Mais là où le stock est le mieux anticipé, c'est quand la copropriété ou le bailleur de manière générale, puisqu'on travaille aussi bien évidemment avec les bailleurs sociaux, anticipe les risques qu'il peut y avoir sur une vieille installation. 25% des appareils ont plus de 40 ans, je vais réinsister plusieurs fois certainement pendant notre échange là-dessus. C'est l'époque 40 ans, c'est l'époque du Minitel, c'est l'époque du Walkman, c'est l'époque de la R5. Donc si vous voyez beaucoup de ces objets-là encore en usage, en utilisation aujourd'hui, moi non. Par contre, nous, on sait faire marcher et fonctionner ces appareils-là qui ont plus de 40 ans. Avec, de temps en temps, une problématique de pièces, effectivement, parce qu'il faut réusiner certaines pièces qu'on a pu. Et là, l'objet, c'est d'alerter les copropriétaires en temps et heure en disant « Attention, votre appareil a 40 ans, 50 ans, j'ai un cas à Lyon, appareil de 72, donc plus de 25 ans, plus de 75 ans, et on lui dit, plus de 70 ans, pardon, et on lui dit, attention, on dit au propriétaire, attention, le moteur va lâcher, ça fait 10 ans qu'on lui dit, et le moteur a lâché, arrêt pendant 3 semaines.
Oui, parce que vous ne pouvez pas stocker tous les modèles de moteurs de toutes les générations
tous les modèles
existantes
de moteurs, de
sur
toutes les
l'ensemble des appareils.
De marques qui n'existent plus pour certaines. On parle du moteur, mais on parle aussi de l'entraînement, on parle de la boîte de commande, on parle des opérateurs de porte. Un ascenseur, c'est 200 pièces en mouvement.
Surtout que l'ensemble, c'est à contre-courant de l'histoire, mais même économique, parce que toutes les industries ne font plus de stock, hein, tout est à flux tendu aujourd'hui.
Tout est à flux tendu, que ce soit chez votre garagiste pour changer vos pneus, c'est pareil, c'est de la même manière pour nous. Alors on a des logisticiens, des stockistes qui travaillent, et vous commandez la pièce à 16h, elle est livrée dans la nuit dans la voiture ou sur le chantier concerné, pour que
la
remise en service,
il y a une filière
dédiée qui est apprévisionnée par les constructeurs installateurs, mais aussi par des fabricants de pièces détachées spécifiques ascenseurs qui travaillent en France, en Europe.
Deuxième nouvelle obligation qui nous a aussi un peu frappé, c'est cette obligation de portage. Donc, quand un ascenseur est en panne à partir d'un certain nombre de jours, c'est 8 jours, c'est
8
ça
jours, ouais.
8 jours, vous avez obligation de mettre en place un système de portage de courses ou de personnes âgées, alors pour les porter, pour qu'elles puissent sortir. Alors, l'intention est louable, hein,
l'intention
bien sûr,
est louable,
hein, l'enfer
fait, ouais.
est pavé de bonnes intentions. Mais ça, est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est des magots ?
Il y a un peu des deux. Forcément, c'est jouable parce qu'il existe des sociétés aujourd'hui, comme la société d'assistance à la mobilité verticale, qui existe, qui travaille plutôt avec des prestataires bailleurs sociaux, lorsqu'il y a un arrêt prévu d'une installation pour un chantier long. Donc, c'est jouable, mais c'est la capacité de l'ensemble à répondre et c'est les coûts induits. Si d'office, par principe, ça doit être dans les contrats, ça va être aussi une augmentation de coûts sur les contrats.
On va parler des coûts juste après. Pénalité de retard. Dans cette proposition de loi, on parle de quelle somme à peu près si vous ne faites pas ces obligations de stockage ?
Il y a des paliers en fonction du nombre de jours, à 100 euros, 300 euros, 700 ou 800 euros, qui veut dire que voilà, au bout de 15 jours, la somme des pénalités qui n'est pas plafonnée va être au-delà de la valeur du contrat. Donc autant dire que pour les appareils à risque, parce que vieille installation, parce que difficulté sur un vandalisme aussi avéré sur ces installations-là, de l'envie d'aller prendre ce type de contrat-là, alors que la pénalité va être au-delà de la valeur du contrat, c'est juste irraisonnable.
Alors obligation de stockage, obligation de portage, risque de pénalité, j'imagine que les ascensoristes ont fait leurs calculs sur l'impact économique de ces nouvelles obligations qui vont vous peser sur les contrats. un ordre d'idée aujourd'hui, un contrat de maintenance sur un appareil de 6 étages, 3 personnes, on parle de 3000 euros par an, quelque chose comme ça.
Peut-être à peine, même 3000 TTC. Mais alors,
3000 TTC, entre 2500 et 3000.
Voilà, entre au titre d'une fédération, annuel. C'est toujours difficile de fixer un prix de marché. On n'a pas le droit de fixer un prix de marché au titre d'une fédération.
Mais
le constat,
c'est
le constat
ce que
qu'on
je vois
fait.
Dans mes budgets.
Voilà. Et on constate aussi, c'est entre 2500 et 3000 sans doute, oui, TTC.
Okay. Donc quel serait l'impact? Quelle serait l'augmentation? Augmentation il y a, hein, bien sûr.
On est en train de finaliser une étude d'impact, puisque ça n'avait pas été fait, il n'y avait pas eu d'étude faite en amont de ce texte. On est en train de finaliser avec le cabinet Asterès une étude autour de l'impact économique de ce texte. Là encore, on n'a pas, au titre de la fédération, dire que les prix vont augmenter de tant de pourcents, etc. Mais il y a un constat d'une augmentation des charges, d'une diminution des marges. Et plus je vais faire de la maintenance dans mon business en tant qu'entrepreneur, donc plus je suis petite entreprise qui est spécifique maintenance, plus ces impacts vont être forts et plus mon entreprise va être à risque. Mais de toute façon, l'ensemble des contrats va certainement
10%
être impacté. Je pense qu'on est loin du largement là, du 10%, mais là aussi je ne vais pas me prononcer. Mais l'autre jour, le bureau d'études qui était à côté de moi a parlé d'un prix contrat qui risquait d'être multiplié par deux.
Par deux.
Ah, donc, et là, c'est un bureau d'études qui l'a dit dans
une
émission de
radio. On a alerté également les députés lors de notre audition sur ce risque, bien sûr.
Il y a ce risque-là, il y a un autre risque aussi, peut-être, j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, sur certaines vieilles installations sur lesquelles on voit bien que la copropriété a un très vieil appareil et ne veut pas investir, on ne va pas aller prendre le contrat pour se faire taper sur les doigts.
Ouais,
il y a aussi ce risque-là que certaines entreprises vont s'échapper de certains immeubles.
On en est où du parcours législatif sur cette loi ?
Alors le parcours législatif, aujourd'hui, donc la loi a été votée en janvier, fin janvier à l'Assemblée nationale. Elle est donc aujourd'hui au Sénat. Elle est issue d'une niche parlementaire.
Ça a été voté en première,
première lecture à l'Assemblée nationale.
Votée par l'ensemble des députés ou il y a eu des partis qui ont voté contre ?
On était dans le cadre d'une niche parlementaire donc, et le texte de fin de journée. Donc l'ensemble du groupe concerné était très présent, les autres groupes très peu
Ils
présents.
Ils étaient trois.
Voilà, les autres étaient très peu présents, certains ont voté contre, d'autres se sont abstenus, mais entre l'abstention et le contre, par rapport à un groupe qui était très présent en portant son texte,
Donc c'est passé.
Passé.
Donc maintenant, la bataille, c'est au Sénat.
La bataille, si elle a lieu, elle aura lieu au Sénat la prochaine.
Ça arrive quand, au vote ?
Là, c'est lié à discrétion d'un groupe, puisque c'est un groupe dans sa niche qu'il a mis à l'Assemblée nationale. C'est le même groupe qui peut récupérer. Ça doit repartir dans une niche. Là, c'est une journée dédiée. Donc voilà, là, on est soumis à l'agenda du Sénat.
Je reviens un peu sur les coûts. Les PME sont peut-être inquiètes. Vous pensez que ce genre de loi peut tuer des PME ?
Il y a des forts risques économiques sur certaines PME. Un groupe fait à la fois de la production, de l'installation, des très gros travaux de modernisation dans des immeubles de grande hauteur comme la Défense. Et donc la part de la maintenance est largement moindre qu'une PME qui ne fait que de la maintenance. Et donc les PME qui ne font que de la maintenance sont fortement à risque dans certaines situations, oui.
Alors, j'imagine que vous avez eu beaucoup de discussions avec les parlementaires. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Bon, vous êtes opposé à cette proposition de loi, bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour améliorer les choses ? Votre contre-proposition ?
Il y a plusieurs causes de...
Au-delà de la modernisation des appareils, mais l'immeuble entier doit être modernisé. On parle de rénovation énergétique, rénovation tout court.
Oui, mais la transition énergétique sans la transition démographique, c'est faire la moitié du chemin. Vous allez avoir des beaux appartements bien isolés, mais si je ne peux pas y rentrer et sortir comme je veux, c'est un vrai sujet. Donc est-ce qu'il ne faut pas compléter la transition énergétique de la transition démographique ? C'est-à-dire que pour nous, pour l'ascenseur, ce qu'on demande, c'est que dans la prime rénov', l'ascenseur soit pris en compte. L'ascenseur, c'est un bien qui consomme de l'électricité. Et des vieux appareils qui ont plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, on peut réduire de 2/3 leur consommation électrique. Donc c'est marginal peut-être par rapport à l'ensemble de l'immeuble, mais c'est aussi un bénéfice et ça va rapporter de l'usage. Et puis ce qu'il faut principalement dans les copropriétés, c'est que l'ascenseur soit systématiquement dans les plans pluriannuels de travaux. Et ça n'est pas. Il faut anticiper. Notre objet, notre demande, c'est l'anticipation. Et puis après, dans d'autres immeubles qui ne sont pas forcément les copropriétés, quoique dans les copropriétés dégradées, c'est un vrai sujet, c'est le vandalisme.
Le vandalisme, bien sûr.
Le vandalisme, c'est dans certains quartiers, des bailleurs nous disent jusqu'à 2/3 des appels que je vous envoie, c'est des appels liés au vandalisme.
Et j'imagine que les pièces coûtent 2 fois plus cher parce que dans certains immeubles de certains quartiers, il vaut mieux y aller à 2 ou 3 techniciens. Garder la caisse à outils et la voiture et puis un autre pour faire la réparation.
Et puis c'est sous des...
Je caricature à peine, hein, j'ai eu des témoignages d'ascenseuristes.
Sans doute, mais c'est aussi des pièces renforcées qu'il faut mettre dans certains cas.
Renforcées, ouais.
On a aussi des bacs à urine dans des ascenseurs dans certains quartiers.
Faut pas oublier qu'il y a eu la loi SAE en 2003. Oui. C'était la loi de Robien.
La loi de Robien, oui.
De Robien 2003, les 17 points de contrôle.
Oui.
Moi, j'ai commencé ma carrière de gestionnaire copropriété à ce moment-là, en fin 2003. Et en tant que syndic, on devait déjà transposer, vendre, entre guillemets, des obligations de travaux.
Oui.
On se souvient du feuilleton sur le variateur de fréquence,
oui,
qui était obligatoire. On en a remplacé un paquet, ça coûtait 10-12 000 euros. Et puis Cécile Duflo est venue nous dire après coup que finalement c'était plus obligatoire. Bon, ça a permis quand même de moderniser un certain nombre d'appareils, avec les précisions d'arrêt, etc.
Oui, ça a permis d'améliorer la précision d'arrêt, pas forcément de moderniser complètement, mais on a adjoint une variation de fréquence dans beaucoup de cas.
D'accord. Et vous avez conscience quand même, mais bon, ça c'est pas un reproche, hein, que les copropriétaires n'en peuvent plus aussi de faire des travaux. Hein,
clairement, nous...
Et des obligations, toujours, enfin ils le perçoivent comme une obligation de travaux. Alors après, la faute aussi peut-être à eux de ne pas anticiper et d'entretenir leurs biens au fur et à mesure, chaque année, une fois l'ascenseur, une fois le chauffage, une fois la couverture.
Exactement, quel est le bien que, dans l'immeuble qui dure 70 ans. Voilà, c'est l'ascenseur, parce que les ascenseuristes se battent au quotidien pour ça. On a peut-être mal fait notre travail en disant au bout de 30 ans on arrête et il faut remplacer l'ascenseur. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, et aujourd'hui on ne demande rien. Par contre, rajouter des charges pour tout le monde, c'est juste hallucinant.
Peut-être qu'effectivement, moi je le vois en tant que gestionnaire, si mon ascenseuriste était un peu plus régulièrement force de proposition pour m'envoyer des devis ou m'alerter. Alors il y a le contrôle technique quinquennal, certes, mais c'est pareil, déjà c'est que tous les 5 ans, et on les fait tous en même temps, donc c'est un peu lourd, et on le subit aussi comme un énième audit. Peut-être que si le prestataire en place dire chaque année, attention, on a identifié que cet organe-là était vieillissant, on vous propose ce devis sans vous forcer à la consommation, mais voilà, on vous envoie un devis, moi je suis syndic, je mets le devis à l'heure du jour la prochaine AG.
Mais parce qu'on est dans ce phénomène, effectivement, il faut investir à un moment donné, donc est-ce que la copropriété a de l'argent ou pas, il y a les primo-accédants qui ne veulent pas y aller, les personnes les plus âgées qui disent, bon bah ça a toujours tourné comme ça, ça marche comme ça, donc ça va continuer comme ça, sauf quand un prestataire dit pendant 10 ans, et mon cas à Lyon, hein, à Paris de 72, attention, bah au moment, ouais, ça lâche. Donc, il ne faut pas être surpris. Donc, il faut effectivement anticiper, provisionner pour pouvoir faire des travaux conséquents à un moment donné. Et pas tous les 10 ans, pas tous les 20 ans, mais en copropriété, tous les 30 ans, ça peut suffire. Mais il faut le faire.
Exactement. Écoutez, on va suivre ce parcours législatif de près. On va voir si ça passe ou si ça ne passe pas. Ce qui est certain, c'est que ça va augmenter les coûts des contrats. On verra bien. Et puis, nous, en Assemblée Générale, si ça passe, d'expliquer pourquoi ces augmentations. Je vous remercie beaucoup, Alain Mélier. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs. Je vous remercie.
Merci.
Et je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, les As de la CoPro, les experts.
Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
Allez, deuxième séquence, analyse des experts avec mes deux As de la CoPro, Mathieu Mialaret. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Je rappelle Mathieu que vous êtes directeur métier ADB syndic chez Foncia.
C'est ça.
Et Pierre-Édouard Lagrelais, bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Gilles.
Pierre-Édouard, notre avocat, spécialiste de la copropriété immobilière, mais surtout copropriété au barreau de Paris et au barreau de Bordeaux, membre de la CNEC, hein, Chambre nationale des experts en copropriété. Mathieu, pas encore, mais on va le faire rentrer, surtout pour cette année, hein, on en parle, la loi de 65, hein, c'est les 60 ans de la loi du 10 juillet 65, on la met à l'honneur. Dans l'analyse des experts, on va parler aujourd'hui, Pierre-Édouard, je vais vous lancer, d'un arrêté qu'on attend depuis 10 ans, depuis la loi Allure, depuis 2014, donc un peu plus de 10 ans, un arrêté relatif à une notice d'information sur les droits et obligations du copropriétaire acheteur. Cet arrêté n'est toujours pas sorti. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte, ce que c'est, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, pourquoi ce n'est pas encore sorti ? Pierre-Édouard.
Oui, merci de cette question. C'est vrai que c'est un document qu'on attend depuis longtemps, hein, plus de 10 ans, puisque cette notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires est attendue depuis la loi Allure, donc depuis le 24 mars 2014. Donc on a passé les 10 ans d'attente. Et c'est un document qui doit être promulgué par arrêté, conformément aux dispositions de l'article L121.2 du Code de la construction et de l'habitation, le CCH, modifié par la loi Allure. Cet article, hein, L721-2, il concerne l'information des futurs copropriétaires. Donc on est dans une démarche d'information précontractuelle des acquéreurs de lots de copropriété. Et de ce fait, cette notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires a pour but d'informer ces personnes du fonctionnement du syndicat pour mieux leur permettre de comprendre le fonctionnement, de savoir ce vers quoi ils vont et quels sont leurs droits et obligations. Donc, cette notice, initialement, elle n'avait pas été prévue par la loi Allure. Le dispositif n'a été introduit qu'ultérieurement par un amendement inspiré par le rapport Braille, qui avait pour titre, hein, on le rappelle, prévenir et guérir les difficultés des copropriétés. Et dès ce rapport, il avait été constaté le manque de connaissances, et c'est quelque chose qui perdure. Aujourd'hui, je pense que les syndics peuvent faire toujours ce constat, le manque de connaissances des copropriétaires, particulièrement des primo-acquéreurs de lots de copropriété, sur le fonctionnement du régime de la copropriété, que ce soit sur le rôle des prérogatives de ces organes, hein, assemblée générale, syndic, conseil syndical, mais également sur les droits et devoirs propres du copropriétaire. Que peut-il faire ? Que ne doit-il pas faire dans l'immeuble ? Donc des éléments assez simples, hein, sur la destination, les travaux sur les parties privatives, parties communes, etc. Et en ce sens, les promoteurs de l'amendement souhaitaient qu'une, je cite, « courte notice », donc ce serait de faire pour le contenu quelque chose d'assez ramassé, hein, pas une bible de 60 pages, une courte notice qui expliquerait ces aspects et que cette courte notice puisse être jointe aux documents obligatoirement remis à un acquéreur, au stade de la promesse de vente lorsqu'il y en a une, ou au stade de la vente.
Donc au moment du prêt étalaté, c'est ça le,
donc au moment
que tout le monde prêt étalaté entre guillemets.
Voilà, avec le document qui, avec d'autres documents comme le carnet d'entretien, le DTG, le PPPT s'il a été dressé, le plan pluriannuel de travaux, ou à défaut le projet de plan pluriannuel de travaux. Aujourd'hui, dans certaines régions, malgré l'absence de cet arrêté, on constate des initiatives individuelles, enfin, de certains groupes, qui ont pu proposer des modèles. On pense notamment à l'exemple francilien, où les notaires et la CLCV ont rédigé une sorte de notice pour informer les futurs copropriétaires de leurs droits et obligations. Mais cette notice ne répond pas tout à fait au but poursuivi, je trouve, dans son contenu, et de toute façon dans la forme, hein, ça n'est pas l'arrêté qui est attendu, et donc ça n'est pas la notice du L721-2, donc ça ne répond pas aux besoins du texte. Donc il faudra certainement que pour ce document, on se rapproche, on s'inspire des notices qui existent déjà et qu'on connaît en droit immobilier. On peut penser particulièrement à deux, hein, qui nous intéressent ici. La première, c'est celle, la notice d'information des locataires, qui a été prévue également par la loi Allure en 2014. Et là, on a un arrêté qui est paru en 2015, le 29 mai 2015, et complété le 16 avril 2023, où on a une notice sur les droits et obligations du locataire, qui fait 15 pages dans sa première version, 20 pages dans sa seconde version. Donc on a un gabarit, hein, déjà, auquel on pourrait se référer. Et puis il y a une autre notice à laquelle on pourrait se référer, qui est celle sur l'information sur le prix, les prix du syndic, qui est connue en droit de la copropriété. Et donc, au regard de ces notices qui existent, moi, il me semble que le contenu de la notice pourrait être le suivant. Un préambule, hein, qui indiquerait de manière très générale ce qu'est la copropriété dans un sens droit de la propriété, c'est-à-dire une indivision forcée mais organisée d'une manière particulière. Puis un point sur la définition et l'organisation spécifique de la copropriété des immeubles bâtis. Ça pourrait être suivi par un point sur le fonctionnement organique du syndicat, AG, syndic, CS, simplement pour préciser qui prend les décisions
le
sur les parties communes, qui
organe.
Fait quoi, et donc d'indiquer au copropriétaire qu'il n'est pas souverain dans l'immeuble, qu'il est peut-être souverain dans ses parties privatives, mais sous de très nombreuses réserves. Ensuite, un troisième point sur les droits et obligations des copropriétaires, dont j'en ai déjà dit un mot, hein, destination de l'immeuble, usage, charge, contribution, etc., Et enfin, peut-être un point sur le règlement des litiges spécifiques à la copropriété, litiges relatifs aux résolutions d'assemblée générale, les clauses réputées non écrites et le paiement des charges, parce qu'il y a quelque chose de particulier à ces trois contentieux. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ici, avec cette notice, bien qu'elle ne soit pas encore révélée, mais ça ne serait peut-être tardé, on a une manifestation qui est très éclatante de l'influence du droit de la consommation, en droit immobilier, en particulier en droit de la copropriété. On en parlait il y a quelques jours avec David Rodriguez, un colloque sur les 60 ans de la loi de 1965 qui avait été organisée par Edilex. Et on voit bien cette manifestation qui a pour but de à la fois protéger ce qu'on estime être la partie faible, ici le futur copropriétaire, et en même temps de protéger le syndicat des copropriétaires d'une éventuelle désorganisation qui résulterait de la méconnaissance de l'acquéreur du lot. Donc par cette information précontractuelle, on espère résoudre deux séries de difficultés, l'incompréhension et des actions erratiques du copropriétaire et une désorganisation du syndicat du fait de ces actions erratiques et incompréhension du copropriétaire. Restera un problème, c'est que toute communication, tout acte, se trouve alourdi de 15 ou 20 pages nouvelles de notices dont on ne sait si elle est lue.
Alors, nous, on y est favorable, hein, bien sûr, en tant que syndic, parce que c'est didactique. On se dit qu'un copropriétaire mieux informé de ses droits et obligations sera instruit, entre guillemets, suscitera peut-être moins de difficultés par la suite. C'est une notice qui est intelligente et qui, d'ailleurs, faisait partie des préconisations ou recommandations du Sénat sur l'enquête relative à la paupérisation des copropriétés de la sénatrice Amel Gacquer. Ça faisait partie des propositions. C'est nous qui l'avions rappelé, d'ailleurs, la NGC, lors de notre audition, parce que tout le monde a oublié l'existence de cet arrêté, de cette notice, et c'est pour ça qu'on en parle. Et on va peut-être même, d'ailleurs, faire des propositions. Mathieu, chez Foncia, vous avez déjà quelque chose, un livret d'accueil, de bienvenue pour le copropriétaire acheteur?
Voilà, d'abord, je confirme qu'on y est extrêmement favorable, hein, que c'est un document qu'on aimerait rajouter à nos dossiers de pré-état daté quand on nous les demande. Et c'est un document qui est effectivement, c'est hyper vertueux de le remettre au candidat acquéreur pour qu'avant qu'il s'engage réellement, il sache exactement où il va et dans quel type d'organisation, de quel type d'organisation il va devenir membre. On est un peu étonné qu'il ne sorte pas au bout de 10 ans. Hein. On a obtenu beaucoup plus vite la fiche synthétique sur le contrat de syndic qui, elle, n'a strictement aucun intérêt et ne fait que répéter ce qui est déjà dans le contrat. Alors que là, ça apporterait vraiment des choses, des informations très intéressantes pour le candidat acquéreur. Donc voilà.
Par contre, autre
réflexion. Je ne sais pas si vous allez quelquefois consulter le site servicepublic.fr, mais toutes ces informations sont déjà rédigées et disponibles sur ce site, de manière extrêmement didactique et claire. Et je pense que cette fiche, sans parler des modèles déjà existants et des initiatives privées, elle pourrait être rédigée en 2 mois par un stagiaire d'été, par simple compilation du travail qui a déjà été fait. Donc on ne comprend vraiment pas pourquoi elle ne sort pas.
Il n'y a pas de difficulté particulière.
Et après, dernier point, pour évoquer ce que vous suggérez, enfin ce que vous évoquiez tout à l'heure là, effectivement, il y a des initiatives de beaucoup de syndics, mais pour remettre des documents didactiques aux nouveaux copropriétaires, mais là, ça veut dire que ça arrive après la mutation, une fois que la vente est passée. Et là, effectivement, nous, mais comme d'autres, on remet un livret d'accueil avec certaines informations qui se
fait combien de pages votre livret d'accueil?
Il fait, il doit faire une dizaine de pages. Avec effectivement des informations générales.
Des schémas, des camemberts, à quoi sert
exactement,
un budget,
voilà,
quel est le poids des honoraires du syndic dans votre budget, il ne dépasse pas 10%.
Alors il y a beaucoup d'informations didactiques, certainement sur les honoraires du syndic, mais sur plein d'autres choses, les charges de copropriété, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment elles sont calculées, comment elles se répartissent, qu'est-ce qu'un budget, quels sont les organes du syndicat, le rôle de chacun, l'assemblée, le conseil syndical, le syndic. Mais ça arrive une fois la mutation passée, donc après la vente.
La question que je me posais, cette notice, est-ce qu'elle sera générique, c'est-à-dire applicable à n'importe quelle copropriété, ou il faudra qu'elle s'adapte quand même à telle ou telle copropriété? Je pense par exemple par rapport à la destination de l'immeuble. Est-ce que dans la notice, on doit dire que l'immeuble est à destination commerciale, à destination mixte? Ça veut dire qu'on adapterait cette notice en fonction des immeubles, ou est-ce qu'on fait quelque chose de très générique, figé, applicable à n'importe quel type d'immeuble?
pour paraphraser François Hollande, moi, rédacteur, je crois que j'indiquerai simplement dans le 1 dont on parlait, définition et organisation de la copropriété des immeubles bâtis, une section sous ce point qui permettrait d'indiquer qu'il y a des immeubles spécifiques au sein du statut de la copropriété, qui sont notamment les résidences-services, qui ont un statut spécial. Il y a les résidences tourisme qui sont mal appréhendées et qui méritent d'avoir un petit paragraphe dans la notice. Et puis il y a aussi les résidences, les immeubles pardon, à deux copropriétaires. Et il y a les immeubles à peu de lots. Et ce sont de micro-statuts au sein du statut qui méritent d'avoir un petit paragraphe, mais sans plus, pour permettre une information générale qui permettra à l'acquéreur, tout simplement, de poser la question à son notaire, à son conseil, qui pourra aussi, donc son avocat,
développer,
qui pourra le conseiller sur ce point, et au vendeur, et au syndic, peut-être, pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement de ce syndicat, s'il entre dans la catégorie. Mais je pense que la notice doit être unique, générale, pour ne pas avoir 10 modèles que le syndic devrait choisir en fonction de l'immeuble.
On est bien d'accord.
Parce que sinon, on aura des difficultés.
Voire des risques d'erreur. Pas le syndic qui est chargé de remettre cette notice. Hein. C'est le vendeur,
notaire, peu importe, in fine, qui la remettra. Mais il faut que ce soit un modèle unique qui indique les spécificités de manière fine, mais
et l'acheteur s'y reporte en fonction
simple,
de sa situation.
Pour permettre voilà, à l'acquéreur de s'y reporter. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas tout à fait le travail d'un stagiaire d'été, mais qu'effectivement, c'est une remarque qui est tout à fait pertinente. Sur le site, déjà, info.gouv, on trouve de très nombreux renseignements utiles, mais c'est le regroupement et la mise en cohérence de ces informations pour qu'un acquéreur puisse lire un document, espérons-le bien rédigé, d'une quinzaine de pages, qui lui permettent d'appréhender ce qu'est une copropriété sans devenir un spécialiste du droit de la copropriété, mais qui lui permettent de se dire « Tiens, moi, copropriétaire, c'est ce que je vais devenir, c'est ça qui va s'appliquer pour moi et ma situation à mon bien. »
Une notice claire, concise, lisible, intelligible, c'est tout ce qu'on souhaite et on y veillera. Merci Pierre-Edouard, merci Mathieu, merci. Et je vous propose qu'on passe à la troisième séquence, la question des copropriétaires.
Les As de la Copro, les questions Copro.
Bonjour, je suis copropriétaire dans une petite résidence de bord de mer. Un des copropriétaires dispose d'un petit jardin avec des haies et des arbres plus ou moins grands. Ma question aux As de la Copro était de savoir qui prend en charge les frais de débroussaillage et d'élagage des arbres et arbustes dans ce jardin commun à jouissance privative.
Ok, donc je rappelle la question. Le statut, c'est un jardin partie commune à jouissance privative, dans lequel il y a de la végétation, des petits végétaux, mais également des grands arbres, qu'on dit de hautes tiges. Hein. La question, c'est qui doit tailler, qui doit élaguer, qui doit débroussailler entre le propriétaire bénéficiaire du droit de jouissance, hein, qui est là, qui utilise ce jardin, et la copropriété, puisque c'est une partie commune. Mathieu.
Alors oui, la précision... Partie commune, jardin commun à jouissance privative est évidemment hyper importante, hein, parce que là, on ne parle pas d'un jardin qui est un lot de copropriété appartenant à un seul copropriétaire. On ne parle pas d'un jardin collectif dans lequel tout le monde peut aller. On parle d'un jardin qui est une partie commune, donc la propriété indivise de tous les copropriétaires, et pourtant, son usage est réservé à un seul copropriétaire, un seul lot. Donc effectivement, la question de qui prend en charge les frais est intéressante et il n'y a pas de réponse évidente. Pour trouver la réponse, eh ben, il faut se tourner vers le règlement de copropriété. Hein, la loi, depuis peu, indique que toutes ces parties communes à jouissance privative doivent être mentionnées expressément dans le règlement de copropriété. Et la loi indique également que les modalités de répartition des dépenses doivent être précisées dans le règlement de copropriété. Alors la loi est assez récente, donc ce n'est pas toujours le cas encore. Mais effectivement, il faut regarder ce que prévoit le règlement de copropriété. Et là, tout est possible. Hein. On peut trouver des situations où l'ensemble des travaux ou des frais d'entretien seront à la charge du copropriétaire qui en a la jouissance. Des situations où, au contraire, l'ensemble des dépenses sera une charge collective répartie selon une clé de répartition entre tout ou partie des copropriétaires. Et puis, on trouvera dans la plupart des cas des modalités de répartition
partage
des dépenses, de partage des dépenses entre le copropriétaire, enfin le propriétaire qui a la jouissance exclusive et les autres. Et alors, en général, cette répartition, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation légale, ce n'est pas une règle légale, hein, c'est plus un usage, c'est la situation qu'on retrouve le plus. C'est l'entretien courant est à la charge du propriétaire qui en a la jouissance, et les travaux plus importants seront à la charge de la collectivité des propriétaires, enfin, seront répartis selon les clés de répartition du règlement. Alors après, la question, c'est quelle est la différence entre l'entretien courant et les travaux plus importants. Alors là aussi, le règlement de copropriété peut le prévoir, hein, et peut le spécifier. Et sinon, on considère que effectivement, l'entretien courant, c'est tout ce qui est un peu à hauteur d'homme, hein, c'est la taille, la tonte, l'arrosage, on va dire tous les travaux de jardinage classiques du dimanche. Alors que quand ce sont des travaux un peu plus importants, et notamment les lagages des arbres,
et les têtages, les lagages,
tout ce qui est travaux plus importants, c'est pas de l'entretien courant, donc c'est généralement à la charge de l'ensemble des copropriétaires. Mais effectivement, ça peut poser des questions d'interprétation. Ça peut,
on a de la jurisprudence, hein, d'ailleurs, hein, sur ce distinguo hauteur d'homme, haute tige.
C'est ça, effectivement. Alors, il faut regarder exactement de quoi il s'agit. En ce qui concerne effectivement les lagages, le remplacement des arbres, le remplacement de haies entières, là, les règles sont assez précisément fixées par la jurisprudence. C'est pas de l'entretien courant, ce sont des travaux. Voilà. Et puis, il y a un cas quand même qu'on n'a pas évoqué, hein, et qui existe, c'est quid si le règlement de copropriété ne prévoit rien. Et là, c'est peut-être pas hyper intuitif, mais il faut regarder ce que la loi de 65 prévoit, je dirais de manière générale pour la répartition des dépenses. Et on retombe sur le schéma classique, avec si rien d'autre n'est prévu dans le règlement, une répartition des charges entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur de leur lot. C'est, je crois, l'article 10, alinéa 2.
C'est des dépenses d'entretien courant.
Voilà, ce qui pourra apparaître injuste, mais si le règlement de copro ne prévoit rien, c'est la règle qui devra s'appliquer.
Et après, on peut effectivement se reporter à la jurisprudence existante en la matière. Moi, j'imagine, Pierre-Edouard, qu'on ne va pas avoir tous les jours du contentieux sur savoir qui doit élaguer, qui doit tondre la pelouse. Mais si on a de la jurisprudence, c'est que c'est déjà arrivé.
Oui, dans des cas, il y en a un certain nombre, hein, parce que même dans des villes comme Paris, on est surpris de découvrir le nombre de jardins qui existent. Et des contentieux, il y en a, parce qu'il y a des arbres qui meurent. Donc il faut les démonter. Donc on se pose la question de savoir si ce sont des gros travaux. On peut faire un parallèle, par exemple, avec le droit des baux, hein, où on se pose la question de la répartition bailleur-locataire. C'est un petit peu ici la même problématique, finalement. Est-ce qu'à partir du moment où on est sur des typologie de gros travaux, serait le syndicat des copropriétaires. Donc il peut y avoir du démontage, il peut y avoir des problèmes phytosanitaires. Et puis aussi, dans des villes comme Paris, il y a des problématiques qui se surajoutent, qui sont celles des règles municipales, où on peut avoir des interdictions de couper des arbres ou de les remplacer, le cas échéant, par des essences identiques. On a des jardins classés, donc on a un certain nombre en fait, d'obligations qui se cumulent et qui ne rendent pas du tout les choses évidentes en matière de gestion d'un jardin. Et puis en plus, on peut avoir après des classements, des écolabels, on peut avoir tout un tas de choses un peu baroques. Mais il y a de plus en plus d'immeubles où on trouve des abeilles. Dans un jardin, on envisageait de mettre des poules, mais un peu sauvages, pour entretenir aussi les espaces.
Les abris à hérissons.
Des abris à hérissons.
Ça, sur quelques immeubles neufs.
Et puis, il peut y avoir d'autres types de contentieux aussi sur les modalités de gestion d'un jardin. J'ai en tête un exemple, un dossier que nous avons en cabinet, où le titulaire du droit de jouissance a une façon de le gérer particulière, parce que c'est un label qu'il a obtenu pour ce jardin comme étant respectueux de la nature. Et par exemple, les feuilles mortes ne sont pas enlevées, elles sont stockées, parce que c'est un abri à la diversité des insectes. Et ça fait que le jardin est plus entretenu de façon naturelle. Et ça ne plaît pas à tous les copropriétaires qui ont une vue sur ce jardin. Et c'est pour ça qu'il y a une règle de partage. C'est parce que c'est à la fois un jardin d'agrément pour la personne qui en jouit, parce qu'il peut y aller, mais c'est aussi un agrément pour les personnes qui le voient et qui profitent de l'îlot de fraîcheur que ça peut apporter dans le cadre des rénovations énergétiques. Là encore, ça a une incidence. Et donc on voit comme ça, par de multiples aspects, que ça peut être une source de contentieux. Et c'est pour ça qu'il y a en fait beaucoup de décisions qui sont rendues sur ces sujets. Et puis ça peut être une perte d'ensoleillement, ça peut être des arbres qui viennent chatouiller des balcons, qui viennent griffer un peu les peintures, qui viennent déposer des feuilles, qui bouffent des pissettes, qui créent donc des dégâts des eaux. Bref, le contentieux a ça d'intéressant, qu'il est multiple et qu'il nous amène à réfléchir toujours sur des situations et sur des solutions qui sont... donc au cas par cas, et c'est ce qui fait la richesse de la copropriété.
Exactement, on ne s'imagine pas finalement, merci à Pierre-Edouard de nous avoir fait toute la liste des situations possibles, et je suis sûr que ça parlera à beaucoup de gestionnaires, parce qu'effectivement ces situations on les rencontre, alors heureusement ça ne va pas jusqu'au contentieux, et puis c'est vrai que le jardin bon, c'est quelque chose de plutôt agréable, un peu plus agréable, poétique que l'ascenseur, mais l'ascenseur nous transporte également. Bon allez, j'arrête, on passe à la deuxième question du copropriétaire.
Je suis copropriétaire dans une grande résidence à Nantes. L'Assemblée Générale a voté l'installation de plusieurs caméras dans les parties communes. J'aimerais savoir quelles sont les règles à respecter pour la vidéosurveillance en copropriété, notamment au niveau du respect de la vie privée.
Là, on change complètement de sujet. Alors, on a fait les ascenseurs, on a fait les espaces verts. On fait les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Quelles sont les règles ? C'est une demande qui est croissante. Hein. Moi, je le constate, de plus en plus de copropriétaires me demandent d'installer, alors ça passe en assemblée générale, mais d'installer au moins une caméra dans le hall, tournée vers les boîtes aux lettres, notamment en raison des vols de colis, etc., etc., avec les livraisons. Donc, les questions qui entourent la vidéosurveillance, parce que c'est quand même très réglementé, se pose de façon croissante. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo, Pierre-Edouard ?
Oui, alors petit, puisque le temps nous est compté, et de ce fait, on va limiter le traitement de cette question, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, finalement, sur la vidéosurveillance ou la vidéoprotection. D'ailleurs, ne serait-ce que sur ces deux mots, il faut commencer par là, il faut les distinguer, parce qu'en fait, ça recouvre deux pratiques similaires, mais en même temps distinctes. En effet, les deux termes désignent un système de sécurité qui est destiné à assurer la protection des individus et des biens par le biais d'une caméra. Donc il y a un traitement de données qui sont des données d'image. Mais la vidéoprotection, elle désigne les dispositifs qui sont installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Alors que la vidéosurveillance, elle désigne les dispositifs qui sont installés dans les lieux non ouverts au public. De ce fait, ce sont deux réglementations qui s'appliquent et qui sont très différentes. Ici, la question est sur la vidéosurveillance, qui est le cas le plus fréquent, et je vais donc me limiter à cette hypothèse, parce que l'autre nous amènerait à largement dépasser, je m'en excuse pour les auditeurs, mais largement dépasser le temps qui nous est imparti. Donc sur la vidéosurveillance, pour commencer, ce qu'on peut dire, et je l'ai déjà énoncé, c'est que c'est un traitement automatisé de données à caractère personnel. Et en ça, la question est pertinente, puisqu'elle porte précisément sur le respect de la vie privée, avec tout ce qui en découle, notamment le respect du droit à la vie privée, du respect du droit à l'image, etc. Et donc ce dispositif, il est soumis à une loi qui est celle du 6 janvier 1978, et également fait l'objet des mesures prévues par le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, avec une obligation de tenue d'inscription au registre. Je vais y revenir dans un instant. Donc, dans cette situation d'installation d'une vidéosurveillance, donc à l'intérieur de l'immeuble qui n'est pas ouvert au public, on peut distinguer une pluralité de situations, mais là encore, par simplicité, je vais en retenir deux qui sont les plus fréquentes. La première, c'est l'installation de la vidéosurveillance dans les parties privatives par un copropriétaire. Ça peut arriver, la personne souhaite protéger son logement ou son commerce, elle souhaite installer un dispositif de traitement des données dans ce local, elle en a le droit, sans demander rien à personne, puisqu'elle traite chez elle les données. Donc le syndicat n'est pas concerné par cela. Sauf, bien sûr, si ce dispositif vient capter les parties communes. Et on peut penser à un cas très classique qui crée souvent des litiges entre les copropriétaires, c'est le judas électronique. C'est le copropriétaire qui installe un dispositif de captation de l'image sur sa porte pour voir qui sonne à distance et ouvrir. Et on trouve ça dans beaucoup d'immeubles parce que les personnes disent avec ce dispositif, je peux ouvrir à distance. Ça me permet de savoir, par exemple, si c'est la nounou qui est arrivée pour lui ouvrir, pour qu'elle s'occupe des enfants. Eh bien, ce dispositif-là, dès lors qu'il a une captation sur la partie commune, il ne peut pas être installé librement par le copropriétaire. Il doit demander l'autorisation au syndicat des copropriétaires de l'installer. Donc là, déjà, on a un mécanisme de protection. Ensuite, le second cas, c'est l'installation du dispositif par le syndicat dans les parties communes. Là encore, c'est possible, mais une décision de l'Assemblée générale sera nécessaire pour installer le dispositif. En outre, le dispositif ne devra pas filmer les parties privatives. C'est-à-dire que le dispositif ne devra par principe pas filmer les portes des appartements, les fenêtres, les balcons, les terrasses.
La caméra ne doit pas être orientée vers les portes.
Elle ne doit pas être orientée.
Le but,
ça n'est pas de savoir qui passe à quelle heure, à quelle fréquence. Le but, c'est d'assurer une sécurité pour protéger l'immeuble. Donc ça n'est pas de surveiller les personnes qui sont dans l'immeuble. Ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, de cette règle, en découle la règle de majorité pour décider l'installation. Si on respecte ce que je viens de dire, le dispositif pourra être décidé à la majorité simple, celle de l'article 24.
Puisqu'on est sur la sécurité des personnes et des biens.
Exactement, sur la sécurité physique des occupants. Par contre, si l'installation porte atteinte aux modalités de jouissance, parce qu'il y a une captation sur les balcons, les terrasses, les portes, les fenêtres, etc., dans ce cas, on passe à la majorité de l'article 26 et il faut l'unanimité, puisqu'on est sur une atteinte aux conditions de jouissance des copropriétaires. Dans tous les cas, on conseille au syndic de se rapprocher de la CNIL pour savoir quelles sont ses obligations en la matière. Là, ce n'est pas une question de déclaration, c'est une question de question qu'on va poser à la CNIL pour savoir si on a assujetti à un dispositif particulier. Ceci dit, depuis le 25 mai 2018, la quasi-totalité des formalités déclaratives auprès de la CNIL a disparu. L'obligation principale qui demeure dans l'hypothèse unique, hein, dont je viens de parler, c'est l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance dans les parties communes qui ne captent pas des parties privatives, c'est une obligation de tenue de registre conformément au RGPD. Donc il faut traiter les données à caractère personnel. Peut-être que Mathieu en dira un mot tout à l'heure dans sa pratique de syndic. Restera ensuite à gérer le système de vidéosurveillance, et à mon sens, ça doit être prévu dès le début, c'est-à-dire dès le moment où on prend la décision d'installer le dispositif, et il convient de voter au même moment en Assemblée Générale la liste des personnes qui vont pouvoir accéder aux vidéos, et la CNIL nous précise que cette liste doit être très limitée. À mon sens, c'est uniquement le syndic. On peut exceptionnellement envisager de donner un accès aux gardiens, et peut-être au président du conseil syndical, mais je le déconseille, je pense que c'est le syndic représentant du syndicat des copropriétaires qui doit y avoir accès. En outre, il convient de préciser de manière limitative les cas dans lesquels on va avoir accès à ces données personnelles. C'est-à-dire que ça n'est pas un visionnage à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Le visionnage doit s'effectuer dans des circonstances particulières, qui est la réalisation d'un événement dans l'immeuble. Par exemple, un vandalisme sur l'ascenseur. Par exemple, un vandalisme sur les parties communes, boîte aux lettres, etc. Mais ça n'est pas le président du conseil ou le gardien qui un matin se lève en se disant « Tiens, je vais visionner ce qui s'est passé dans l'immeuble. »
Il faut une bonne raison.
Exactement. Il faut un motif. Enfin, il faut préciser la durée de conservation des données, et la CNIL nous dit qu'il ne faut pas dépasser un mois. Parce que dans cette période d'un mois, on a largement le temps, quand il y a un sinistre qui s'est réalisé, de visionner les bandes. Et puis, dernier point important, c'est de préciser la faculté de transmettre les données aux forces de police pour qu'elles puissent elles-mêmes les visionner, puisque ça n'est pas quelque chose d'automatique. J'ai dit la dernière chose, pardon, j'en ai une vraie dernière à préciser. C'est l'affichage obligatoire qui doit être fait dans les parties communes. Il faut préciser aux personnes qui vont faire l'objet de la captation vidéo de cette captation. Et donc, il faut leur dire qu'il y a une captation réalisée à des fins, et les préciser, donc de surveillance, de police, et indiquer la personne qui est en charge du traitement des données. Voilà pour ce qu'on peut dire en quelques mots sur la réglementation applicable. Alors c'est brossé à grands traits.
Très exhaustif.
Malheureusement non, mais en tout
presque.
Cas...
Mathieu, vous vouliez rajouter en pratique, ça se passe bien ?
Oui, je voulais rajouter deux choses. Alors la première, je vais être rapide parce que Pierre-Edouard l'a très clairement expliqué, c'est bien rappelé aux gestionnaires qu'il ne faut pas une résolution, mais trois résolutions. Hein, le principe de l'installation des caméras, la liste des personnes qui auront le droit d'aller visionner les données enregistrées, Pierre-Edouard l'a bien dit, et puis effectivement la décision ou non d'autoriser la transmission aux forces de police, donc ça j'y reviens pas. Je voudrais revenir sur le registre des traitements, parce que ça c'est quelque chose qui fait très peur aux gestionnaires, c'est une notion avec laquelle on est pas très familier, et je sais que dans beaucoup de cas on installe les caméras et en fait on ne met pas en place le registre des traitements, pourtant c'est très facile. C'est beaucoup plus simple que les anciennes procédures de déclaration à la CNIL. Hein. Il existe des modèles conformes à la RGPD. Hein, et en fait, en gros, c'est, on explique, en suivant une trame, quelle est la nature de l'installation, quel est l'objectif poursuivi, et puis quels sont les droits de l'occupant, qui sont les droits classiques de la réglementation sur la protection des données, à savoir accès, correction, etc. Et une fois que ce registre est mis en place, en fait, il ne bouge plus, sauf si l'installation évolue. Et donc, on conseille vraiment de le faire, hein, en récupérant une trame, d'en mettre, quand il y a une loge, un exemplaire à la loge, et de publier le registre sur l'extranet du syndic, dans la partie règlement de copropriété, par exemple. C'est vraiment très facile, et donc on peut simplement être en totale conformité. C'est pas la montagne ou la chose très complexe qu'on imagine parfois en ligne sur le site de Il y a des modèles, je suis sûr qu'il y a des modèles sur le site de la CNIL, il y a des modèles qui circulent, il y en aura peut-être très rapidement un sur...
On peut se faire aider par l'installateur également.
Oui, l'installateur en a forcément, et puis il y en aura peut-être bientôt un sur le fil de la NGC.
Et exactement, puisqu'on donne des outils, une boîte à outils aux gestionnaires de copropriété. On peut mettre une caméra dans l'ascenseur, ça se fait ?
Bonne question, je pense que ça se fait. Alors, il y a des caméras.
On filme pas les parties privatives,
on filme pas les parties privatives.
On filme quand même quelqu'un
dans un lieu public commun, en tout cas. Il y a ceux qui ont opéré pour la téléalarme par de la visio pour assurer en cas de personne bloquée, il y a une visio qui peut se mettre en fonctionnement, ça existe. Caméra, bonne question, ça doit se pratiquer. Par contre, je sais qu'il y a eu des actes de vandalisme pour des boîtes à boutons cassées parce que dans un certain quartier, ils craignaient qu'il y ait des caméras cachées derrière, ce qui n'était pas le cas.
Et on pourrait rajouter ça dans la PPL controversée, caméras dans les ascenseurs sensibles, voilà, pour identifier les actes de vandalisme et les personnes responsables, puisqu'en fait c'est elles qui doivent payer les réparations. Je vous remercie beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Merci Pierre-Edouard Lagrelais, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris et Bordeaux. Mathieu Mialaret, directeur métier ADB, syndic chez Foncia. Et Alain Mélier, délégué général Fédération des ascenseurs. Je vous remercie à tous. Merci. Ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.